Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est avec ma casquette et mon micro-casque que je vous accueille au drive de Popopop pour vous proposer un maxi best pop. Un maxi best pop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme chez Ronald, à savoir le meilleur, non pas de la junk food, mais de la pop culture. Soit une culture qui se consomme également avec les doigts, même gras, au grand désespoir des pages de BD qui ne peuvent être tournées si on est en train de consommer cette dite finger food. Et aujourd'hui, c'est sans frites ni supplément cacahuète sur votre Sunday que je vous embarque. Comment puis-je vous embarquer si vous êtes à l'arrêt de mon drive? Bonne question, mais je vais tenter grâce à Wilfried Lupano qui a publié l'indispensable Bibliomule de Cordoue, un roman graphique à consommer avec les doigts propres, et Valérie Donzelli passée par ce restaurant pour nous présenter sa première et très remarquée série Nona et ses filles. Nona et ses filles, c'est l'histoire d'une femme septuagénaire qui se retrouve enceinte à cet âge avancé. Au passage, sachez que j'adore cette expression, un âge avancé, comme on disait l'âge de madame ou de monsieur, est avancé à l'époque où l'on se déplaçait avec une certaine diligence. D'ailleurs, puis-je vous servir votre menu au comptoir de mon drive si vous venez en diligence? Là, je n'ai pas la réponse, mais pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Et bonjour Valérie.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. Ensemble, nous allons donc parler de Nona et ses filles, une série à découvrir dès maintenant en intégralité sur Arte. TV. C'est une série que vous avez écrite avec Clémence Madeleine Perdria, que vous réalisez, et dans laquelle vous jouez. Ça veut dire que vous n'avez pas créé les costumes, ni fait la lumière, ou encore moins géré la circulation pendant le tournage. Seriez-vous pas un peu partisane du moindre effort?
Non, alors c'est vrai que je suis un peu multitâche, mais pour ce qui était de cette série et de ce projet, souvent les séries elles sont réalisées par plusieurs metteurs en scène. Ouais. Et moi, je voulais pas ça, parce que j'ai pensé cette série comme je fais mes films. C'était un univers, je l'avais dans ma tête. Et je sais pas déléguer la mise en scène, parce qu'en fait, tous les jours, on invente des choses. Bien donc sûr. On peut pas donner ça à plusieurs personnes. Ou alors, ce serait une vraie co-réalisation avec deux metteurs en scène que je choisirais. Quelqu'un avec qui j'aimerais travailler, avec qui pourrait avoir un peu un univers complémentaire du mien, mais voilà. En tout cas, là, j'ai réalisé les 9 épisodes et j'ai écrit les 9 épisodes avec l'aide et le soutien sans faille de Clémence Madeleine Perdria, que je salue et qui est vraiment une autrice remarquable, talentueuse. et puis j'ai joué Georges parce que j'aime jouer et que ce personnage-là m'amusait particulièrement.
Ah, bah attendez, on va reparler donc, voilà. De Georges, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Bon, mais 9 fois 26 minutes, c'est quand même une bonne charge de travail, hein. C'est l'équivalent de quoi, 3 longs métrages.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui.
Ok, très bien. Valérie Donzelli, quand je vous vois, je pense à Main dans la main. C'est une chanson d'Elie et Jacques Noe qui a inspiré le titre de votre 3e film, Main dans la main. Donc, et je vous propose de l'écouter pour commencer.
Ah, quel plaisir.
Thank you.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Car oui, elle vient de nous rejoindre.
Bonjour.
Charline Roux, notre picarde préférée.
Et vous en connaissez d'autres ?
Non, vous êtes voilà. La seule. Charline, vous avez vu Nona et ses filles, la série de notre invitée aujourd'hui, Valérie Donzelli. Comment la décririez-vous ? Pas Valérie Donzelli, la série.
Pour les deux, je dirais fantasque. Elisabeth Perrier, dite Nona, est une tornade, femme libre, émancipée, mère célibataire de trois femmes, des triplés, responsable d'une antenne parisienne du planning familial. Et à sa grande surprise, elle découvre qu'elle est enceinte. Grande surprise car elle a 70 ans. La stupéfaction passée, la vie s'organise, les rangs se resserrent et ses trois quadragénaires de réinvestir l'appartement maternel pour la surveiller comme l'huile sur le feu. Et voilà donc une femme censée être en âge de profiter, comme on dit, délestée de quelques responsabilités, replongée doublement, enfin quadruplement, dans les affres de la maternité. Malédiction ou félicité, telle est la question. La maternité est-elle un super pouvoir ou en tout cas un événement un peu surnaturel, Valérie Donzelli ?
C'est une question qui m'est posée.
Tout à fait.
À laquelle je vais répondre.
Après avoir bu une goutte d'eau. Après avoir été surprise alors que vous pensiez avoir encore un peu de temps pour finir de boire tranquillement.
Je pense que la maternité est un super pouvoir et un super poison. Voilà. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans cette série. J'ai voulu parler de toute son ambiguïté. Toute l'ambiguïté qu'il y a autour de cette question de la maternité qui est à la fois quelque chose qui peut rendre très joyeux quand évidemment c'est désiré, et puis en même temps, même si ça rend très joyeux, c'est aussi quelque chose qui, voilà, on a quand même un locataire en soi. C'est
un locataire,
c'est,
j'adore.
Oui, c'est pas c'est pas anodin. Je veux dire, c'est quand même les femmes ont quand même un être vivant qui grandit à l'intérieur d'elles, qui prend possession de leur corps littéralement. Donc j'avais aussi envie de raconter ça et des dangers que ça pouvait encourir, voilà.
Et c'est la première fois que vous réalisez une série. Comment est-ce que vous avez appréhendé l'exercice ?
Alors, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur, parce que quand on fait une série, on a des vraies contraintes de production, c'est-à-dire que c'est des budgets qui sont alloués en fonction du format de la série, pas en fonction de la série. Donc, il faut vraiment rentrer dans des cases. Et j'avais peur de ne pas avoir le temps de réfléchir, le temps de pouvoir faire la mise en scène que j'avais envie de faire. Donc, on travaille dans une urgence comme ça. Alors, je suis quelqu'un d'assez speed et qui sait rebondir. Mais parfois, le cerveau, il a quand même besoin de se poser. Et puis de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de filmer ? Qu'est-ce que raconte cette scène ? Où je mets ma caméra ? Comment je dirige mes acteurs ? Et ça prend du temps, en fait. Et le temps au cinéma, c'est ce qui coûte cher. Et le temps à la télévision, je pense que c'est ce qui coûte encore plus cher. Et donc, on en a moins. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu anxiogène. Mais après, on est bien entouré. On a un super premier assistant. Là, c'était Luc Catania, que j'adore. On a une super chef-op qui était Irina Lubchansky, qui a fait une lumière absolument géniale.
Ah, vous n'allez pas tous les nommer, là.
Non mais en tout cas, c'est de là, oui, parce
César,
que...
Je vous oublie.
Non, mais oui. je les nomme parce qu'on les nomme rarement. Et
mais
c'est
non,
quand même...
je vous en prie, vous pouvez nommer qui vous voulez.
Non, mais après, voilà, j'ai Elisabeth Menu qui a fait les costumes, Gaëlle Houssandiveras qui a fait tous les décors.
Enfin, oui, bon, ça va maintenant.
Je m'arrête là, mais je pourrais tous les citer parce que franchement, j'ai une équipe extraordinaire. Et aussi un directeur de production, Jean-Pierre Crapard.
Allez, vas-y.
Non, mais je le dis parce que c'est-à-dire que j'ai eu une vraie armée pour travailler avec moi. Et avec Arte et Gaumont, évidemment, qui m'ont donné l'opportunité, et Rectangle qui m'ont donné l'opportunité de faire cette série. Mais ce que je veux dire, c'est que le cinéma, ça se fait pas tout seul.
Bien sûr.
Et une série encore moins. Et en fait, toutes ces gens qui nous accompagnent, on les embarque avec nous, ils croient au projet. Et c'est magnifique. Et moi, j'aime la collectivité. Donc, voilà, j'étais très heureuse, même si le tournage était dur, de faire ça dans ces conditions-là aussi.
Nona et ses filles de Valérie Donzelli et Clémence Madeleine Perdria. C'est en ce moment sur arte.tv. Et ça sonne comme ça.
Je m'appelle Elisabeth Perrier, mais tout le monde dit Nona. Je suis féministe. J'ai toujours milité pour les femmes, leur liberté, leur combat. À 27 ans, j'ai eu des triplés. Je travaille toujours au planning familial de mon quartier. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte et c'est vraiment une catastrophe.
Vous savez quoi, les filles ? On va s'installer ici, avec elles.
Et hop, tout le monde rue Poulet.
Le titre étant Nona et ses filles, intéressons-nous d'abord à elles. Miu Miu et Nona, Virginie Ledoyen et Manu, la mère de famille qui porte d'ailleurs le même prénom que son mari. Clotilde M et Gabi, sexologue, et vous êtes Georges, étudiante fantasque qui vit toujours avec maman. Comment est-ce que vous avez constitué cette famille ?
Bah alors vraiment, je l'ai constitué. D'abord, ce qui me vient en premier, ce sont les prénoms et les noms des personnages. Donc je savais que je voulais créer quelque chose autour d'une mère et de ses filles. Et des filles qui viendraient revivre chez leur mère. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'elles viennent revivre chez leur mère ? Il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Tiens, et si elle tombe enceinte ? Ça, c'est jamais... Enfin, voilà, je trouvais ça intéressant. Et donc je savais que cette mère s'appellerait Nona et qu'elle aurait trois filles qui seraient Emmanuel, Gabriel et Georges. Et donc à partir de ce moment-là, quand on s'appelle Emmanuel, on a une certaine vie. Quand on s'appelle Gabriel aussi. Puis quand on s'appelle Georges, c'est sûr que c'est pourquoi on l'a appelé Georges, celle-ci. Donc voilà, je les ai construites comme ça, petit à petit, en ayant aussi un peu des stéréotypes, c'est-à-dire celle qui s'était construite radicalement opposée à sa mère féministe. Alors elle a eu 5 enfants, elle est mariée avec un type hyper beau, qui a une super situation, etc. Gabrielle, c'est la révoltée, c'est la punk, puis on comprendra pourquoi, elle est toujours contre sa mère, mais parce qu'aussi elle lui ressemble beaucoup. Et puis Georges, bah, c'est la petite dernière, alors qu'elles sont triplées, mais on considère toujours que c'est la petite dernière, et de fait, elle est restée chez sa mère, quoi.
Mais justement, et voilà. Valérie, dans la mesure où vous avez coécrit, où vous réalisez, on peut en déduire que vous avez choisi le personnage de Georges. Vous l'êtes distribué à vous-même. Elle est proche de vous, cette jeune femme à côté de ses pompes est très attachante.
Oui, elle est proche de moi. Oui. Même si je ne suis plus vierge, mais elle est quand même proche de moi.
Et vous êtes cycliste, donc.
Comment ?
Vous êtes cycliste.
Oui, je suis cycliste, oui.
Et elle s'appelle Georges.
Voilà.
Et comme Georges Sand.
Oui, comme Georges Sand. Moi, je m'appelle Valérie. Alors, c'est vrai que
Paul Valéry.
Oui, c'est aussi un prénom mixte, Valérie. Et je suis la seule à avoir un prénom mixte. Et quand j'étais petite, on m'appelait Valérie Giscard d'Estaing, ce qui m'a gavé toute ma jeunesse.
C'est vrai que vous avez un petit côté Valérie Giscard.
Je n'ai pas mon prénom à cause de ça. Et là, je trouvais que Georges, c'était beau. Je me suis dit, tiens, j'aurais préféré m'appeler Georges.
Ah, écoutez, mon père s'appelait Georges. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça complique ? Bon, Clémence Madeleine Perdria est aussi la scénariste de séries comme OVNI ou la saison 2 de En thérapie. Comment vos chemins se sont-elles croisés ?
Eh bien, elles se sont croisées par quelqu'un en commun qui, au départ, devait travailler sur la série et puis qui, finalement, est parti. Et en fait, il m'a apporté dans sa besace Clémence Madeleine Perdria, qui était toute jeune scénariste, qui avait pratiquement rien fait. Et en fait, elle a grandi, je l'ai vue grandir. Et ça ne m'étonne pas parce qu'elle est très talentueuse et elle m'a accompagnée comme ça pendant... Parce qu'on a écrit longtemps la série, quand même, ça a été assez long. Et maintenant, c'est la grande scénariste que tout le monde sait.
Que tout le monde s'arrache.
Que vous pouvez voir en salle dans La Vie de Château, ce merveilleux film d'animation que je ne saurais que trop vous recommander.
Très, très beau.
C'est magnifique. Beau, Charline.
Parmi les déclics et éventuelles influences de la série, vous avez cité Valérie Donzelli, ce film.
Vous êtes ballonnée comme si vous attendiez un enfant.
Pardon ?
On dirait que vous êtes enceinte de 4 mois.
Alors, il n'y a rien de grave ?
C'est pas grave, certes, mais c'est déroutant chez un homme.
L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune de Jacques Demy, dans lequel Marcello Mastroianni croit être enceint, en quoi ce film vous a-t-il accompagné ?
Parce que, d'abord, j'aimais beaucoup le film. Je trouve que le film est très original et tout ça. Je trouve ça génial que Jacques Demy ait eu cette idée comme complètement saugrenue d'un homme enceinte. Après, la fin du film me laissait un peu... j'étais un peu déçue parce que on apprend que c'est juste une grossesse nerveuse. Donc je me disais, c'est un peu comme si on ne savait pas finir le film. Et le film a plein de qualités par ailleurs, autre que celle-ci. Autre que ce petit truc-là. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que cette idée, je crois qu'inconsciemment, peut-être m'a donné envie de créer aussi quelque chose de surnaturel qui serait une femme de 70 ans enceinte. Donc c'est peut-être parce que j'ai vu ce film-là que j'ai eu cette idée-là.
Enfin, une femme de 70 ans surnaturelle. Vous savez qu'il y a une Indienne de 75 ans qui a donné le jour à un enfant.
Oui, mais parce qu'elle a fait une fécondation.
Son mari a 80 ans.
Oui, mais je pense que c'est.
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'ailleurs de mon côté.
Oui, on ne sait pas, mais en tout cas, je pense que c'est parce qu'elle le voulait.
Oui.
Alors que le truc de Nona, c'est que elle n'en veut pas. C'est, on ne comprend pas comment c'est possible. Ouais, quoi.
C'est une série qui parle à la fois de transmission et d'émancipation, qu'elle se fasse en alliance ou en opposition, vous le disiez, par rapport au caractère des sœurs. Est-ce que c'est aussi ce qui vous amusait de rassembler trois sœurs et une mère au caractère aussi singulier et opposé?
Ah bah oui, évidemment. Et puis de réunir un maximum de gens dans un même endroit. C'est toujours drôle, ça aussi.
Valérie, dans votre série, une scène se passe ici. Mais alors, quand je dis ici, c'est littéralement ici, à France Inter. Une interview de Clotilde M, enfin de son personnage, évidemment.
Gabriel Perret.
Quel effet ça vous fait? C'est un peu la vache qui rit?
Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Alors après, je crois qu'on avait un peu triché, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu venir jusqu'ici, parce qu'au cinéma, on triche toujours.
Puis on n'est pas aussi accessible que ça.
Enfin, oui, mais vous nous aviez gentiment prêté un petit fond France Inter.
On est comme ça.
Voilà. Oui. Non, mais oui, c'est vrai, c'est un peu...
Bon, c'est rigolo.
C'est rigolo.
On va pas passer la nuit là-dessus non plus, mais bon.
Vous parliez d'enfermer des personnages dans un même endroit. Effectivement, la série est quasiment un huis clos dans l'appartement de Nona. De fait, la série aussi entre fable, sitcom, conte fantastique, comédie musicale. C'est la somme de toutes vos influences?
Oui, je crois qu'il y a un peu de tous mes films dans cette série, en fait. C'est assez marrant, quoi. Après, c'est pas forcément quelque chose que j'ai voulu, mais je crois que j'avais le temps de le faire. Donc, il y a un peu de tous mes films, c'est vrai.
Mais il y a surtout quelque chose dans cette série qui baigne dans un climat qui est très... poético-perché, je ne sais pas si c'est la,
oui, et je crois
si c'est
que
la bonne définition. On est à la fois dans la réalité et puis en même temps dans une convention de comédie et avec laquelle vous jouez beaucoup.
Oui, il y a une forme de théâtralité aussi qui est due au huis clos, oui. Qui est due comme ça à ces personnages, ces décors qui sont un peu surannés, mais parce que je crois que la série, et ça je ne l'avais pas forcément perçu en l'écrivant, elle est aussi teintée de nostalgie. Et de la nostalgie de l'enfance.
Ouais.
Et c'est vrai que elle est comme ça un peu dans une grammaire 70-80, mais c'est finalement celle de mon enfance, quoi. Donc, quand je parlais avec la chef décoratrice, qui est à le même âge que moi, finalement, elle voyait de quoi je parlais, puisque c'était les mêmes références qu'elle avait. C'était les tapisseries avec des fleurs, c'était des couleurs un peu marron, c'était des objets en rotin, des trucs comme ça.
C'est très étonnant, en contraste, parce qu'effectivement, l'ambiance de l'appartement a quelque chose de très années 70, mais on y voit évoluer des jeunes femmes modernes, téléphone portable à la main, la réalisation est assez moderne. Est-ce que vous vouliez rendre la série hors temps?
Oui, parce que, en fait, je crois que quand on vit 45 ans dans le même endroit, ben, on ne refait pas toute la déco forcément. Nona, en tout cas, ce n'est pas son truc. Donc, il fallait qu'on puisse, quand on rentre dans cet appartement, voir son passé et son présent. Donc, le présent, ben, c'est les personnages, c'est le quotidien, c'est l'extérieur, c'est... Et puis le passé, bah, c'est les objets, c'est ce qui est resté comme ça en place. Et je pense que quelque part, j'avais envie de parler de mon enfance aussi, de cette période-là.
Et alors un mot du format, 9 fois 26 minutes, ce qui est plutôt un format de comédie pour les séries. Qu'est-ce que ça impliquait en termes de rythme au sein de chaque épisode?
Alors ça, c'était très intéressant d'ailleurs de travailler avec Clémence, qui était beaucoup plus experte que moi et qui tenait le rythme de la série en disant non mais ça, en 26 minutes, ça va pas tenir. Donc elle savait exactement, elle était très forte pour ça, pour justement savoir, quand on écrit une série, c'est vraiment une écriture en arborescence comme ça. Donc on a plein de post-it, on a des trajectoires multiples de tous les personnages pour savoir jusqu'où on va. Donc on est un peu paumé au début. Et puis finalement, les choses se construisent de façon assez mécanique presque, en se disant, voilà, il y a trois histoires, il y a toujours l'histoire A, l'histoire B, l'histoire C, hop, ça va se... Et puis après, on enlève la technique pour essayer de rendre les choses incarnées et touchantes et vivantes, quoi.
Vous sortez de comment de cette expérience?
Ah, je suis ravie, j'étais heureuse comme tout de pouvoir...
C'est beaucoup plus complexe qu'un long métrage classique. Hein.
Ouais, c'est difficile.
Quand on parlait d'arborescence, effectivement, il y a tellement de pistes ouvertes.
Il faut être très organisé dans le travail, mais j'étais bien accompagnée. Mais j'ai adoré faire ça parce que je crois que quand j'étais actrice, ça me faisait fantasmer de jouer des personnages qu'on retrouve comme ça. Je trouve ça génial quand on est acteur de pouvoir jouer des personnages sur le long terme, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai écrit Nona, je me suis dit, tiens, peut-être que ce sera ça. peut-être qu'on pourra jouer longtemps Gabriel, Emmanuel, Georges, enfin voilà. Bon, Nona, j'en parle pas parce qu'on ne peut pas tout dévoiler. Mais
bon, bah non, surtout pas. On parlait de références années 70, 80. Il y a par exemple le générique, dans le générique de la série, qui est inspiré de cette pub.
Bah oui.
Papa, 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 papa. C'était quoi ça?
Dim.
Ah ben bah, bravo, Dim.
Ouais.
Dim dame.
Dim tout court.
Dim tout court.
Le Maxi Best Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Merci Valérie Donzelli. Nona et ses filles, c'est à consommer sans modération sur le site d'Arte. Oh, cette tempête, Tempest, en anglais, m'indique qu'avant de retrouver Wilfried Lupano, il est temps d'écouter un morceau de Kay Tempest, et son morceau More Pressure.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit. Less complex, more complete. Less push, more flow, please. Let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted. Less convoluted. More stillness, more movement. More existence, less improvement. More decisions, less solutions. Less inhibition, less confusion. More intuition, more connection. More nature, more protection. More abundance, more reflection. Less instruction, more comprehension. More pressure, more release. More relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Let me let go. Blast from the past, what's so special? Get so in the universal. Roll onto the road that you came here for. Look at me, man, I came here past foe. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the clones. Look at my scars, look at my bones. Look at my faults. More release, more push, more me, more me. Yes, yes, understand how to and you taught me how to so I can't forget you. Traveling, mind, rubber land, let the trunk rattle down. What's true to you, what's real? This is still all the watch from cars. Sitting on top of your car, we ain't noise in the bar. Let them know.
More release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
More Pressure, c'est signé Kay Tempest. Je parlais en début d'émission d'objets pop aussi addictifs que de la junk food. Eh bien, c'est le cas de la Bibliomule de Cordoue, un roman graphique signé Wilfried Lupano et dessiné par l'excellent Victor Cheminot, un roman graphique que je vous propose de snacker ensemble. Et avant de prendre la direction de l'Andalousie, à la fin du premier millénaire, une Andalousie où rayonnait alors la culture arabe, je voudrais comprendre votre mode de fonctionnement, mon cher Wilfried, parce que si vous êtes devenu un des scénaristes les plus cotés, c'est le jeu de rôle qui vous a aidé à développer un imaginaire, et un imaginaire qui se promène aujourd'hui de la science-fiction à l'époque contemporaine, ou donc l'Andalousie du Xe siècle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est mis en place tout ça? Pourquoi le jeu de rôle ?
Bah, le jeu de rôle, c'est très chouette comme activité. On est avec des amis autour d'une table, avec des dés, des feuilles de papier. Et juste en se parlant les uns les autres, on fait exister des univers et des aventures complètement folles. Mmh. Et ce que j'aimais beaucoup dans le jeu de rôle, c'est que ces aventures, elles n'auront de corps et elles ne resteront dans les souvenirs que des gens qui étaient autour de cette table à ce moment-là. C'est un truc qui nous lie pour toujours, en quelque sorte, et qui est comme une espèce de secret de clan. Mmh. Et j'adorais cette activité, qui en plus est basée sur le fait qu'on se parle les uns les autres. Si on ne se parle pas, rien n'existe dans le jeu de rôle, donc je trouvais ça très, très chouette. Le jeu de rôle, c'est aussi une super école pour développer son imaginaire, en particulier inventer des personnages, des situations, des conflits, des enjeux. Et par contre, c'est pas du tout une bonne école pour structurer un récit, parce que
c'est basé,
il y a l'impro, on doit se fondre dans les décisions que prennent les joueurs et s'adapter à leurs choix. Donc en fait, on se démerde avec tout ça. Mais déjà, ça m'avait donné ce goût pour l'écriture, créer des situations inattendues, des personnages intéressants qui ont de la profondeur et des intrigues, etc. Pour la partie structure, après, j'ai dû aller chercher ça ailleurs. Voilà, je suis allé chez Goscinny, notamment. Voilà.
C'était quoi votre rôle préféré, à l'époque, le genre de rôle que vous préfériez ?
Moi, j'aimais être le maître du jeu, parce que le maître du jeu incarne tous les personnages que rencontrent la petite troupe. Chaque joueur incarne un personnage, mais le maître du jeu incarne tous ceux qu'il rencontre.
L'auteur,
en quelque sorte. Mmh. Et ça, j'aimais beaucoup, passer d'un personnage à un autre, tout le temps, face à eux.
J'imagine que la bibliomule.
La bibliomule.
Je recommence. Bibliomule de Cordoue a dû vous demander un colossal travail de recherche, puisque on parle là d'une époque qui n'est pas connue pour être particulièrement documentée. Est-ce que ça rend pour vous le projet encore plus excitant quand vous avez à plonger dans un univers dont tant de traces ont été effacées ?
Ah oui, alors excitant, c'était excitant, mais alors. Je me suis demandé à un moment donné pourquoi je me lançais dans ce genre de truc, parce que c'est-à-dire que quand je suis tombé sur au détour d'une lecture comme ça sur l'histoire de l'incendie de la grande bibliothèque de Cordoue, j'ai ressenti très fort le besoin de raconter cette histoire. Et l'instant d'après, je me suis dit, mais mon garçon, car je me dis parfois mon garçon,
vous appelez mon garçon,
je m'appelle mon garçon, tu ne sais rien sur l'islam du Xe siècle.
Et puisque la bibliothèque a brûlé, par définition, les traces ont disparu.
Et alors, enfin, il y a plus. Puis ensuite, il y a eu toute une période dans les années qui ont suivi l'incendie de la bibliothèque de Cordoue. Il y a eu aussi l'éclatement de ce royaume en plein de petits royaumes, etc. Donc en fait, oui, toute cette période ne croule pas sous la documentation historique. Il y en a pourtant. Mais surtout, elle ne croule pas elle n'a pas beaucoup inspiré les auteurs. On n'a pas énormément de grands récits qui nous y ramènent, ou de récits populaires qui nous y ramènent. Donc il n'y a pas déjà un imaginaire construit autour de cette période. Ouais. Or, moi, donc, ce que j'ai découvert dans les quelques livres d'histoire que j'ai pu parcourir, c'était un univers qui m'a vraiment fait rêver, qui m'a inspiré, qui m'a donné envie de m'y plonger.
400 000 livres qui sont partis en fumée au moment de ce fameux incendie. Vous-même, votre bibliothèque, qu'est-ce qu'on y trouve, Wilfried Lupano ?
On y trouve beaucoup de choses. J'ai cette maladie là dont j'ai oublié le nom, qui consiste à acheter des livres tout le temps.
J'ai la même.
Et à être incapable de m'en séparer la plupart du temps. J'ai lu beaucoup de romans dans ma jeunesse. J'en lis beaucoup moins aujourd'hui. La plupart du temps, je lis des livres sur les sujets qui me passionnent. Donc, je lis des livres pour apprendre. Et j'ai une espèce de syndrome de l'imposteur plus, c'est que j'ai une tendance à la surdocumentation. C'est-à-dire avant de parler d'un sujet, je me sens obligé de me surdocumenter sur ce sujet-là, parce que j'ai peur de raconter des conneries, j'ai peur de me faire reprendre, etc. Il y a 2-3 ans, j'ai fait une bande dessinée complètement stupide sur une qui s'appelle Maharaja, qui se passe entièrement dans une usine de bouffe pour chats. C'est de l'humour noir. C'est très très con comme bande dessinée. Il a fallu que je me documente, que je sache tout sur la bouffe pour chats. Alors que j'ai même pas de chat. Non, c'est une pathologie.
Écoutez, j'en ai trois, moi. Je veux bien vous en céder un. Bon, la Bibliomule de Cordoue, votre nouvelle BD, Wilfried Lupano. On en parle dans la suite de Pop 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 avec Charline Roux, juste après I Love You, I Hate You. C'est un morceau de la jeune rappeuse américaine Little Sims.
So much, I would give my life for this. If the bullet was the beat, I would probably die for this. How many times did I cry for this? I would hate myself if I didn't at least try for this. What's at stake is bigger than me. Blood, tears, how it stains, can't rid it with ease. What we have in common is our pain. We're given the keys to unlock what it takes to fight for what we believe in. Hard to confront the truth with what you see in the mirror. Some people you inspire and others you trigger. Fighting in blind faith, led by the internal voice. You might not want to do it, but you don't have a choice. Will the pressure take me to new heights or be my demise? Will my intentions coincide with what I advise? The people looking up to me doing everything right. But who am I to tell anyone how to live their life? Your pain threshold will determine if you survive. I'm amazed by it. Lying to myself, pretending I was never faced by it. Maybe because you're in my DNA, that's why. Sometimes, always, but right now, you made a promise to God to be there for your kids. You made a promise to give them a life you didn't live. My ego won't fully allow me to say that I miss you. A woman who hasn't confronted all her daddy issues. The day will come when you gotta find all the answers to your sins. Pressures are provided, feeling unhappy within. Know what kind of external family shit up on your plate. But I understand wanting and needing an escape. Too much unsaid, now the silence giving me headaches. Only through speech can we let go of all this dead weight. Even though I'm angry, don't wanna be disrespectful. Trying to figure out how to approach this in the best way. Hard to not carry these feelings even on my best days. Never thought my parents would give me my first heartbreak. Anxiety giving me irregular heart rate. Used to avoid getting into how I really feel about this. Now I see how fickle life can be and so it can't wait. Should have been the person there to hold me on my dark days. It's easier to stargaze. I wish then be faced with this reality. Is you a sperm donor or a dad to me and still? Mission you live and learn. The world don't show you no mercy from birth. How do you humanize your hero? Round it, you're only respected if earned. Half-hearted stories can't let your guard down. To get to Nirvana, where do you start out? Angry cause they don't meet your unrealistic standards. Then you realize that they're human and you calm down. Sometimes I'm unbalanced and I think raw, why am I losing my steps? Lately I'm paranoid, I feel my life is a mess. I'm just using my voice, hope it will have an effect. He was just once a boy, often I seem to forget. Looking at Polaroids, a picture secretly kept. You know what was destroyed, but you don't know what was left. Trying to phase out the noise of all you hear in your head. Everything is a choice and anything can be said. Is you missing the point? Are you just hearing me vent? Or is you in understanding, knowing my words will connect? I keep you in my prayers, cause life is short as we know. Every mistake you make should contribute to your growth. What you choose to avoid will probably come in your dreams. I'm not forgiven for you, man, I'm forgiven for me. And sometimes
France Inter, Antoine de Caunes. Pop, pop, pop.
Et Charline Roux, car oui, vient de nous rejoindre sur un tapis volant qui s'obstine à ne pas vouloir voler. Charline Roux, bonjour Charline.
De surpoids, sans doute. Bonjour.
Ah mais non, mais c'est la moquette. Et nous a également rejoint, mais à distance, Léonard Cheminot, qui curieusement n'a pas pris le train. Bonjour Léonard.
Bonjour, bonjour. Non, depuis Nice.
Depuis Nice, ben oui, c'est un peu loin. Et pardon encore une fois de vous avoir appelé Victor en ouverture de cette émission.
Je vous en prie, j'ai un cousin qui s'appelle Victor qui...
Ah bon, on le salue alors. Salut Victor. Charline, embarquez-nous dans la Bibliomule de Cordoue, la BD de Wilfried Lupano et Léonard Cheminot.
Année 976, le califat d'Al-Andalus en Espagne vit dans un climat de paix et de culture. Le calife Abdelrahman III et son fils Al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du savoir. Mais Al-Hakam meurt jeune et son fils, enfant, se retrouve sous le tutorat d'un vizir sans légitimité, Amir. Ce dernier a une grande soif de pouvoir et des alliés dont l'obscurantisme n'a d'égal que l'envie de se venger de ce pouvoir éclairé. Ils veulent voir brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de Cordoue. La veille de l'autodafé, Tarid, eunuque en charge de la bibliothèque, charge autant de livres qu'il le peut sur le dos d'une mule qui passait par là avec Marwan, son ancien apprenti devenu voleur. L'étrange attelage est rejoint par Loubna, une jeune copiste noire. Ensemble, mais poursuivis, ils vont tenter de sauver la précieuse cargaison. Cette histoire s'appuie donc sur un fait authentique, la purge de la bibliothèque de Cordoue par le vizir Al-Mansour. Vous disiez ne pas savoir grand-chose de l'islam médiéval. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce drame en particulier ?
Ce drame en particulier, je l'ai découvert en me documentant sur la destruction du savoir de l'homme par l'homme. C'était mon petit sujet pendant un moment. Toutes ces périodes où on aime bien se savonner nous-mêmes la planche en défonçant notre propre culture, enfin la culture de l'autre en général, pas la nôtre, mais encore que ça se discute. Et voilà, je suis tombé sur cet épisode. Et je me suis immédiatement demandé pourquoi je n'en avais jamais entendu parler, ni dans ma scolarité, ni dans ma formation, ni pas seulement de l'incendie de la bibliothèque de Cordoue, mais je dirais de toute cette civilisation d'Al-Andalus.
Les deux siècles de l'occupation.
500 ans à peu près. Ils arrivent vers 700. Ouais. Ils franchissent le détroit de Gibraltar en 711. Et donc, jusqu'à la Reconquista, 1200, il y a donc 500 ans de présence arabe en Espagne, totalement passée sous silence en général dans la façon dont on nous enseigne l'histoire de l'Europe. Donc ça m'a interpellé, j'ai eu envie de partager tout ça immédiatement.
Alors Léonard, même question que celle posée à Wilfried plus tôt. Comment recrée-t-on pour vous visuellement un monde, celui de l'Andalousie du Xe siècle, dont les traces ont pratiquement toutes été effacées ?
Oui, c'est sûr que c'était pas évident. On n'avait pas beaucoup de sources documentaires. Il y a quand même un musée à Cordoue qui existe, qui parle un petit peu de cette période. On a quelques éléments, des objets, par exemple, des bijoux qui nous sont parvenus jusqu'à nous. Donc on peut repartir là-dessus. On a dans les pages de garde de l'album, par exemple, on a une espèce de fresque un peu avec des fleurs, des plantes et tout ça. Et du coup ça vient d'une boîte qui est venue jusqu'à nous. Voilà. Donc on a quelques fragments qui sont parvenus, et le reste, en fait, on a dû le recréer. Et la priorité qu'on avait avec Wilfried, c'était vraiment que ce soit très très fluide et très très lisible. Oui. Et donc du coup, on a pris quelques petites libertés avec la réalité historique pour garantir ça, quoi, pour garantir la lecture.
Ça l'est fluide.
Ouais. Cette histoire d'un autre siècle n'est pas sans résonance aujourd'hui, puisque de 2012 à 2016, alors que Damas imposait un siège, dans la banlieue de Daraya, il y a une quarantaine d'hommes qui ont décidé d'ouvrir une bibliothèque clandestine en rassemblant tous les ouvrages récupérés sous les décombres de la ville. La bibliomule de Cordoue, c'est de fait une BD engagée, une sorte de rappel que le savoir, c'est le pouvoir.
Oui, exactement, et qu'il y a un rapport originel entre le savoir et le pouvoir. J'étais encore en train de travailler quand il y a eu cette histoire à Damas de ces gens qui allaient ramasser des livres dans les décombres de la ville pour les mettre en sécurité, mais aussi à disposition dans des parkings souterrains de la ville. Et on voyait des images de ça, et ils faisaient ça avec des brouettes. Et je me suis dit, c'est exactement le même sujet, c'est la même chose, donc ça ne passe pas. Comment on sauve le pouvoir, le savoir, en temps de guerre, en temps de destruction? On imagine évidemment tout ce qu'on a pu perdre dans l'histoire de l'humanité, à travers les sacs des villes, les incendies, etc. C'est évidemment un sujet qui m'a vraiment touché. Et en particulier à cette époque-là, un livre qui est présent dans la grande bibliothèque de Cordoue, c'est un ouvrage évidemment unique, tracé à la main, etc. Mais c'est aussi des livres sur lesquels chaque personne qui venait là pour le consulter laissait des annotations. Mmh. Tout le monde ne venait pas à la grande bibliothèque de Cordoue, c'était réservé à une certaine élite intellectuelle. Et donc, le livre n'était pas sacralisé. On écrivait dans les marges ce qu'on pensait de tel passage, et où on recommandait le commentaire d'un lecteur précédent. Donc c'était un peu comme les réponses aux commentaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous savez, c'était la même chose. Donc quand on détruit un livre comme ça, on détruit parfois 30 ans, 40 ans de réflexions posées par des philosophes qui ont été apposées dans les marges. On détruit beaucoup plus qu'une copie du livre. Donc c'est quelque chose de vraiment tragique.
Léonard, c'est aussi quelque chose qui vous a sauté aux yeux en travaillant sur le sujet, cette destruction des traces précédentes.
Ah oui, moi complètement. Ouais. Moi j'ai été complètement fasciné par quand j'ai reçu le scénario de Wilfried. J'ai eu un temps d'arrêt aussi. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait énormément de choses que moi je savais, que j'avais appris à l'école, et je pensais qu'il venait de la Renaissance italienne qu'on a tendance à tous connaître en France. Enfin, on nous apprend que c'est vraiment
le point de départ.
Le point de départ, voilà, de notre civilisation. Et en fait, en travaillant sur l'album, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de savoirs qui venaient en fait, qui étaient passés par l'Andalous, quoi.
Ouais.
Donc il y a eu beaucoup de destructions, mais moi j'apporterais un point un peu optimiste, c'est-à-dire qu'en fait, malgré toutes ces destructions, le savoir est quand même passé, quoi. Mm-hmm. Et on a réussi, ça a réussi à venir jusqu'à nous.
C'est quoi cette manie, c'est une question que je pose à tous les deux, de brûler des livres qui revient comme ça, assez cycliquement?
Oui, oui, on peut se poser la question. Hein. Bah alors, c'est très tentant d'abord parce que c'est du papier, je pense qu'il y a un côté ludique. Hein.
Encore que vous posez la question dans la dernière page du livre du numérique.
Bah oui, qui est une autre façon. Ouais. Et puis, comme on vient de le dire là, la meilleure façon de détruire entre guillemets du savoir, c'est avant tout de l'invisibiliser, quoi. Ouais. Le par exemple là, toute cette période dont on est en train de parler, si moi on n'en a pas entendu une ligne pendant notre scolarité, c'est pas parce que les sources n'existaient pas. Il y a des livres d'histoire qui en parlent, c'est très documenté par les historiens, c'est juste qu'à un moment donné on a choisi de passer sous silence toute cette partie de l'histoire de l'Europe parce que elle ne colle pas avec notre roman national ou européen. Donc c'est plus un choix qu'un de sources.
Quand on est scénariste, quand on est dessinateur, est-ce qu'il y a une saveur particulière à écrire un livre sur les livres, un livre sur les beaux livres qui lui-même se présente comme un grimoire avec des dorures, avec un marque-page intégré, comme ça ne se fait presque plus.
Mais oui, alors ça, évidemment, c'était extrêmement...
Léonard.
Hein. Ouais, oui, c'était l'activité extrêmement gourmande, et encore, on aurait pu se lâcher beaucoup plus. Hein.
C'est très très beau. Hein.
On a un éditeur qui est là pour nous mettre des coups de balai et nous dire, vous allez vous calmer. Mais c'est vrai que c'est très tentant, puisque le livre parle de l'objet livre sacré, de mettre dans les mains du lecteur quelque chose qui y ressemble un peu, pour qu'il y ait un côté ludique. Bien sûr, on avait envie de présenter un bel objet.
Léonard, vous êtes fier du bébé?
Ouais, bah écoutez, ouais, on a fait en tout cas tout ce qu'on pouvait, hein, parce que dans l'album déjà faut quand même citer, on a deux autres contributeurs, il y a Christophe Bouchard qui a fait les couleurs, et Ségolène Ferté qui a fait les calligraphies qu'on retrouve, les calligraphies arabes qu'on retrouve à certains passages du livre. Et sur la maquette globale du livre, en fait, on a un directeur artistique qui est Philippe Ravon chez Dargaud, qui nous a aidé à fabriquer l'objet le plus beau possible.
Et votre fils aussi, je crois, qui a participé.
Et mon fils, c'est tout à fait. Voilà, qui a fait des petits croquis que j'étais pas capable, plus capable de faire, parce qu'on oublie comment dessiner simplement quand on grandit.
La bibliomule, c'est donc un mix de bibliothèque et de mule, et ça vient de bibliobus, ces bus qui venaient dans les villes sans bibliothèque. Mais c'est également une technique de livraison que vous avez observée au Maroc, Wilfried, la livraison par des ânes. En voyant des ânes recouverts de caisses de Coca-Cola, vous les avez renommés les Coca-Colanes.
Oui, mais oui,
c'était
des jeux de mots idiots sur effectivement, oui, il y avait une partie de la médina de Tanger, me semble-t-il, qui est fait en escalier, quoi, et donc les véhicules peuvent pas monter pour livrer les commerçants, c'est tout bête, donc on continue à fonctionner avec des ânes qui sont plus adaptés que les petites camionnettes. Voilà, j'avais rigolé, il y avait des Coca-Cola partout, ça me faisait rire. Voilà.
Ils sont pas tous aussi récalcitrants que la mule dont on parle dans ce livre.
Alors, même s'il n'existe que peu de traces de cette période, pour les besoins de cet ouvrage, vous avez rencontré des historiens. Que vous ont-ils raconté?
Plein de choses. Ils m'ont, en particulier Pascal Burezi, qui nous a fait l'amitié de cette sublime postface à la fin du livre, pour nous redonner un peu de contexte historique. Il nous a décomplexé sur notre vision, notamment esthétique et graphique de cette période-là. en nous disant ce que vous avez dessiné, ce que vous avez réalisé, ça ressemble un petit peu à Bagdad, à la culture de Bagdad, mais on peut raisonnablement penser que vous n'avez pas tort, parce qu'on sait que le califat de Cordoue était très à l'écoute de ce qui se faisait à Bagdad. Il voulait pas être les ploucs de l'islam. Mmh. C'était un second califat. Il voulait être d'égal à égal avec Bagdad. Et donc, ils étaient très friands de nouvelles qui arrivaient par la Méditerranée, de comment on vivait à Bagdad, comment on s'habillait, qu'est-ce qu'on faisait d'un point de vue architectural, etc., pour ne pas être en reste. Donc, c'était intéressant de voir qu'il y avait quand même cet apport qui traversait toute la Méditerranée déjà à cette époque-là. Pascal Burezi nous a aussi donné son sentiment sur la façon où, pour lui, même à cette époque-là, déjà le savoir des livres, la destruction des livres a une dimension beaucoup plus symbolique. Et qu'en réalité, des copies existaient et que le savoir ne disparaissait pas tant que ça avec ce genre de geste, parce qu'il existait toujours des copies ailleurs et que le savoir trouve son chemin malgré tout, dans une autre bibliothèque. Et d'ailleurs, le vizir Al-Mansour lui-même, cette espèce de cynique absolu, avant l'autodafé, il était passé faire ses courses. Et prendre un certain nombre d'ouvrages dans la bibliothèque pour le mettre dans la sienne. Ouais. Parce qu'il n'était pas non plus complètement débile, et c'était un intellectuel. Mmh. Et faire brûler des livres, il avait dit « Ok, d'accord, ça va plaire, etc. » Mais enfin, il y a là-dedans quelques ouvrages, il ne faut pas pousser, je les veux chez moi.
Léonard Cheminot, quand on parle de cet univers disparu, j'imagine que pour un dessinateur comme vous, ça doit être totalement fantasmatique quand on s'attaque au chantier. Parce qu'entre le début du storyboard et la fin de l'ancrage, il s'est écoulé 2 ans et demi. C'est donc plus compliqué à dessiner qu'une aventure de la Linéa, ce petit personnage qui marche sur une ligne, non ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et 260 pages, et en fait, c'est un genre de road movie. Et donc, il fallait vraiment que ce soit très très cohérent du début à la fin, et que l'univers graphique se tienne en fait sur 260 pages. Et c'est plus facile à dire qu'à faire en fait. Et donc, on a vraiment travaillé le storyboard pendant, je pense qu'il a dû rester en suspens pendant un an, plus d'un an. C'est-à-dire qu'on revenait en permanence dessus, on retravaillait, on allongeait certains passages, on en raccourcissait d'autres. On avait, là, par exemple, à un moment, Tarid, le personnage principal, perd une babouche. Il la lance de rage avec, sur son pied gauche en fait. Et donc c'est tout bête, mais c'est comme au cinéma, il faut veiller après sur toute la suite de l'histoire que sur son pied gauche il n'y ait plus de babouche. Et c'est tout un tas de petits trucs comme ça. La mule aussi, il fallait qu'elle soit la plus expressive possible. Et voilà, donc on a vraiment, vraiment bossé pendant du coup 2 ans et demi pour arriver à avoir ça.
Vous mettez en scène dans la Bibliomule des gens qui se rebellent contre le pouvoir sans vraiment avoir les moyens de leur rébellion. Ce sont des intellectuels pas franchement faits pour l'aventure. C'est à la fois extrêmement touchant, cette volonté de sauver le savoir, et parfois c'est source de comique, entre autres à cause de la mule récalcitrante. Traiter un sujet aussi grave, ça nécessite un peu de légèreté.
Ah ouais, complètement. Sinon c'est effectivement c'est glauque. Sinon c'est très fait historique aussi. C'est très. Moi j'aime pas trop la bande dessinée historique en fait. J'aime bien que ça soit qu'on se rende pratiquement pas compte que c'est de la bande dessinée historique, qui a des faits historiques derrière, etc. Ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est vraiment justement la non-compétence absolue des gens qui choisissent le refus de l'inéluctable injustice qui leur est présentée. Ils refusent ça. Ils n'ont pas les moyens de le refuser, mais ils le font quand même. Et ce côté, on va se rebeller en se rebellant, on réfléchira sur la route, à toute ma sympathie. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de moderne, d'urgent, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des phénomènes de résistance, de désobéissance civique, etc., qui est de l'ordre du spontané, de quelque chose que l'on ressent. Et on se dit, on verra bien en le faisant. Et c'est pour ça que ma petite bande, là, c'est quand même une synergie d'incompétents dans le sujet qui leur est proposé, c'est-à-dire le voyage et le... C'est une histoire de réfugiés aussi.
Ouais.
Dans les deux sens, Tarid n'est pas arabo-musulman, c'est un esclave, il est du nord de l'Europe et il a été
fait prisonnier.
Déplacé, ouais.
Voilà, il a été déplacé et il a grandi dans cette culture-là qu'il a appris à aimer, il en est le fruit. Et cette petite équipée, là, ces trois personnes et cette mule, ils cherchent un endroit où se réfugier. Mmh. C'est une histoire toute bête. Hein.
Mmh. Avec leur cargaison de livres précieux. Léonard Cheminot, vous êtes ingénieur au départ, et vous avez tout arrêté pour devenir, pour être dessinateur. C'est parce que vous pensez qu'on peut penser les choses, on peut changer les choses, pardon, et convaincre les gens à travers les livres. C'est un scénario qui était donc totalement du sur-mesure pour vous.
Ah oui, complètement. Moi, j'ai arrêté une lucrative carrière d'ingénieur pour, prometteuse en tout cas, pour pouvoir faire de la BD qui est beaucoup plus précaire. Et c'est, ouais, moi, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à changer les choses, à changer un petit peu de la vision du monde chez certaines personnes. Et là, vraiment, cette BD, c'était vraiment, l'objectif était vraiment rempli. Donc, moi, il faut de toute façon, encore une fois, là, 260 pages. C'est pratiquement 3 ans de boulot. Il faut une énorme motivation à la base pour pouvoir s'atteler à la tâche. Et donc il faut que ça trouve une utilité, quoi. Mmh. Donc là, ça l'a rempli complètement.
Le Maxi Best Pop Pop Pop. Antoine Decaune.
Merci Wilfried Lupanot, merci Léonard Cheminot. La Bibliomule de Cordoue, c'est édité chez Dargo et c'est tout simplement indispensable. Voilà, je remets ma casquette, je reprends du service au comptoir de Mondrive pour vous proposer un peu d'oasis et ainsi compléter la formule du maxi Best Pop du jour avec The Importance of Being Idle. Importance of Being Idle, c'est avec ces quelques gouttes d'oasis que se termine ce maxi Best Pop. Je vous rappelle nos pop recommandations pour nourrir plus l'esprit que le corps. La Bibliomule de Cordoue de Wilfried Lupanot et Léonard Cheminot qui est à retrouver chez Dargo et Nona et ses filles, la série de Valérie Donzelli qui est à voir ou à revoir sur Arte TV. Demain, on rembobine les pop-pop-pop de Laure Calamy et de Baptiste Le Caplin. Spoiler, ça n'a aucun sens. À demain.